de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Des dizaines de manifestants thaïlandais ont été blessés après une manifestation près du palais royal. Les Émirats arabes unis étendent leur campagne de vaccination contre la COVID-19. Les Philippines comptent 7757 nouveaux cas de COVID, le deuxième pic quotidien le plus élevé. Un citoyen indonésien qui a été pris en otage par le groupe Abu Sayyaf a été sauvé à nouveau. Le ministre indonésien des coopératives et des petites et moyennes entreprises a officiellement ouvert JAFES pour restaurer l'économie nationale. Attention aux mutations COVID-19, le gouvernement continue de limiter l'entrée des étrangères. Aucun citoyen indonésien a été victime du tremblement de terre au Japon. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Plus de 30 civils et policières ont été blessés lors des manifestations antigouvernementales en Thaïlande. C'est ce qu'a rapporté dimanche un centre médical d'urgence de Rawan après que les polices aient utilisé des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des balles en côte coupe pour interrompre une manifestation la nuit précédente. Selon le centre médical de Rawan, 13 policières et 23 ont été blessées. Pendant ce temps, le chef adjoint de la police de Bangkok, Pia Tavichai, a déclaré aux journalistes dimanche que leurs actions étaient conformes aux normes internationales et que 20 manifestants avaient été arrêtés pour avoir violé les lois sur les rassemblements publics et insulté la monarchie. Il a déclaré que la violence venait des manifestants et que la police devait défendre la loi et protéger les installations de l'État. Les Émirats arabes unis ont exhorté tous les citoyens et surtout les citoyens âgés de 16 ans et plus à s'inscrire dimanche pour la vaccination COVID-19 alors que l'État du Golfe a étendu ses efforts de vaccination après avoir inoculé 56% de la population éligible. Comme le rapport Reuters, les Émirats arabes unis, qui sont le centre commercial et touristique de la région, et un centre de voyage mondial ont établi un rythme effréné pour la fourniture des vaccins afin de maintenir leur économie ouverte aux affaires. Le ministère de la Santé a déclaré que cette décision était intervenue après que près de 73% des personnes âgées des Émirats arabes unis, des citoyens et des personnes souffrant de maladies chroniques aient été vaccinées. Le pays fournit quatre types de vaccins gratuits. Les cas quotidiens de COVID-19 des Émirats arabes unis ont grimpé à près de 4 000 fin janvier, contre 600 environ en septembre, après que Dubaï a ouvert ses portes aux visiteurs pendant la période de pointe du tourisme hivernal. Ce chiffre a chuté après que les autorités ont resserré les restrictions sur les lieux publics. Les Philippines ont enregistré dimanche 7757 cas supplémentaires de COVID-19, la deuxième augmentation en un jour la plus élevée dans le pays d'Asie du Sud-Est depuis le début de la pandémie. Le décompte quotidien suit le record d'infection de samedi et marque le troisième jour consécutif de 7000 nouveaux cas confirmés. Les Philippines luttent contre un pic de nouvelles infections, y compris de nouvelles variantes plus contagieuses, ce qui incite le gouvernement à resserrer les restrictions, en particulier dans la région de la capitale. Pendant ce temps, dans son bulletin, le ministère de la Santé a déclaré que le nombre total de cas enregistrés était passé à 663 794, tandis que les décès confirmés avaient atteint 12 968 avec 39 autres décès enregistrés dimanche. Le total de traitements a augmenté de 15 288 à 577 754. Le ministre de la Santé, ou des OH, conseille au public de suspendre les voyages non essentiels et de garantir le respect des normes minimales de santé publique qui incluent le port de masques. Un citoyen indonésien qui avait été victime d'un otage par le groupe Abu Sayyaf a de nouveau été secouru dimanche sur l'île de Kalupage, après qu'auparavant trois citoyens indonésiens victimes d'otages aient été secourus jeudi. Dans une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères reçue par Antara à Jakarta dimanche dernier, a déclaré qu'une victime qui avait été secourue était un garçon de 14 ans au nom de MK. Pendant ce temps, le consulat général indonésien à Davao City, Philippines, par l'intermédiaire des membres du poste frontalier des forces armées nationales indonésiennes à Bongao, en province Tawi-Tawi, l'a rencontré et examiné l'état de MK qui serait en bon état. Le sauvetage de MK signifie que tous les citoyens indonésiens retenus en otage par le groupe Abu Sayyaf ont été libérés avec succès. Pour le processus de rapatriement dans le pays, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'ambassade indonésienne à Manille et du consulat général indonésien à Davao City, assurera la coordination avec le gouvernement philippin. Le ministre de Coopératives et de Petites et Moyennes Entreprises, Teten Mas Duki, a officiellement ouvert le Festival de la Culture et du Tourisme de Java Occidental, ou JAFEST 2021, une activité menée par quatre associations d'anciens élèves des universités d'État. Cette activité s'est déroulée dans le contexte des efforts visant à restaurer l'économie nationale en autonomisant les micro, petites et moyennes entreprises dans chacune de leurs séries d'activités. Il a encouragé la transformation des micro, petites et moyennes entreprises dans le domaine numérique. À ce jour, 12 millions de micro, petites et moyennes entreprises se sont connectées aux plateformes numériques. C'est ce qu'a affirmé Teten Mas Duki à Gedung Sate, Bandung, Java de l'Ouest, dimanche dernier. Selon lui, une stratégie efficace pour commencer à restaurer de nouveau l'économie consiste à activer le secteur du tourisme, y compris l'économie créative. Pendant ce temps, le président de l'Association des anciens étudiants de l'Université Padjadjaran, Irawati Hermawan, a déclaré que JAFES 2021 se déroulait à l'aide d'installations numériques et hors ligne. Pendant les 5 jours de sa mise en œuvre, selon elle, une expo numérique de l'économie créative et des micro-petites moyennes entreprises aura lieu et environ 500 micro-petites moyennes entreprises étant impliquées. Le gouvernement continue de limiter l'entrée des citoyens étrangers pour être au courant de la propagation du virus COVID-19, surtout en anticipant l'entrée de nouvelles variantes du coronavirus. Cela a été transmis par une porte-parole du ministère indonésien des Transports, Adita Irawati, dans un communiqué à Jakarta dimanche dernier. Cette nouvelle variante vient des humains. Bien sûr, il faut contrôler l'entrée à la fois des citoyens indonésiens et des étrangers de l'étranger. Adita a expliqué que le contrôle de l'entrée des personnes de l'étranger se réfère à la circulaire numéro 8 de 2021 concernant le protocole de santé des voyageurs internationaux pendant la pandémie de COVID-19. Ce règlement est issu du groupe de travail qui interdit aux étrangers d'entrer à moins que ceux qui respectent les dispositions plusieurs nouvelles variantes du coronavirus sont entrés en Indonésie. La variante B117 a été trouvée dans ce cas. Le ministère indonésien de la Santé a déclaré que 9 potentiels pourraient être générés à partir de la nouvelle variante de COVID-19, telle que l'augmentation de la propagation, l'augmentation de la morbidité et l'augmentation de la mortalité. Le ministère indonésien des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a déclaré qu'à ce jour, il n'y a eu aucun rapport des citoyens indonésiens qui ont été victimes du tremblement de terre au Japon. Directeur de la protection des citoyens indonésiens et des personnes morales du ministère indonésien des Affaires étrangères, Judha Nugraha, a déclaré dimanche, sur la base d'informations de l'ambassade de la République d'Indonésie à Tokyo, des informations ont été obtenues selon lesquelles les citoyens indonésiens étaient en bon état. Judha a expliqué que l'ambassade d'Indonésie avait coordonné avec un certain nombre de représentants indonésiens de la région pour surveiller les citoyens indonésiens. Les situations post-séisme, par le biais de médias locaux, des rapports des autorités et des informations du public. C'est le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui intitulé La Banque d'Indonésie maintient un taux d'intérêt de 3,5%. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque d'Indonésie, BI, des 17 et 18 mars 2021 a décidé de maintenir le taux d'intérêt de référence, ou taux de prise de la Banque d'Indonésie en pension inversée à 7 jours, à 3,5%. Plus tôt, le 18 février, la Banque d'Indonésie avait annoncé une baisse des taux d'intérêt de 3,75% à 3,5%. Depuis le début de l'année dernière, BI a réduit son taux d'intérêt de référence de 150 points de base. Ce chiffre de 3,5% est le taux d'intérêt de la Banque d'Indonésie le plus bas de l'histoire depuis l'indépendance de l'Indonésie. Selon Peri Warjio, le gouverneur de la Banque centrale de la Banque d'Indonésie, cette décision est conforme à la nécessité de maintenir la stabilité du taux de change du rupia face à l'incertitude croissante des marchés financiers mondiaux, au milieu de la faible inflation prévue. En outre, BI maintient également le taux de la facilité de dépôt à 2,75% et le taux de la facilité de prêt à 4,25% alors que le processus de reprise économique se poursuivait. Pour soutenir la durabilité de la reprise économique nationale, la Banque d'Indonésie optimisera également davantage les politiques macroprudentielles accommodantes, accélérera l'approfondissement du marché monétaire, soutiendra les politiques internationales et numérisera le système de paiement. Dans cette optique, la Banque d'Indonésie prend des mesures politiques dans le cadre du suivi de la synergie des politiques du Comité de stabilité du système financier dans un ensemble de politiques intégrées pour l'augmentation du financement des entreprises. En outre, il continue de renforcer la coordination des politiques avec le gouvernement pour accélérer la distribution des crédits financement des banques au monde des affaires, surtout dans les secteurs prioritaires qui soutiennent la croissance économique dans le contexte de la reprise économique nationale. La déclaration de la Banque centrale américaine, Réserve fédérale, selon laquelle aucune indication de relèvement du taux d'intérêt de référence jusqu'en 2023 est une bouffée d'air frais pour les mouvements de devises dans les pays en développement, y compris l'Indonésie. Si la Banque d'Indonésie suit cette étape, la roupie devrait se reformer à nouveau cette année après avoir été suffisamment sous pression tout au long de 2020. Ainsi, on espère que le processus de reprise économique pourra être plus rapide. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken.
meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonjour à tous. On va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 mars 1945. La Ligue arabe est fondée. Chers amis, la Ligue des États arabes est une organisation composée de pays arabes. Cette organisation a été fondée le 22 mars 1945 par 6 pays. La Ligue arabe est chargée de coordonner les activités économiques, y compris les relations commerciales, communication, activités culturelles, citoyenneté, passeport et visa, activités sociales et activités de santé. La charte de la Ligue arabe interdit également aux membres de recourir à la violence les uns contre les autres. Le siège de la Ligue arabe est au Caire. La Ligue arabe est formée de 6 pays, à savoir l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, l'Arabie Saoudite et la Syrie. Actuellement, la Ligue compte 22 membres, mais la participation syrienne a été interrompue depuis novembre 2011 à raison de l'opération gouvernementale pendant la guerre civile syrienne. Chers amis, on continue avec l'événement du 22 mars 1992, création de la Journée mondiale de l'eau. La Journée mondiale de l'eau est une commémoration visant à attirer l'attention du public sur l'importance de l'eau propre et à sensibiliser le public à la gestion durable des sources d'eau potable. La Journée mondiale de l'eau est commémorée tous les 22 mars. Cette initiative commémorative a été annoncée lors de la 47e Assemblée générale des Nations unies le 22 décembre 1992 à Rio de Janeiro, au Brésil. Chaque année, la Journée mondiale de l'eau a un thème spécial. Chers amis, on finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 mars 2016, bombardement de Bruxelles. Le 22 mars 2016, trois explosions se sont produites à Bruxelles, en Belgique. Deux à l'aéroport de Bruxelles et un à la gare de métro Melbeek. Au moins 34 personnes ont été tuées et des dizaines blessées. L'État islamique d'Irak et de Syrie a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les autorités ont arrêté tout le trafic aérien à destination de l'aéroport de Bruxelles et évacué les passagers. Le bâtiment Berlaymont, un bâtiment près de la gare de Melbeek et du siège de la Commission européenne, a été immédiatement fermé. La police belge a fait exploser des objets suspects à proximité de la gare de Melbeek. Bonjour Gilles, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Creation.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement a lancé l'écosystème logistique de Batam pour augmenter la compétitivité. Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, et le ministre de la Coordination des Affaires Politiques, Juridiques et de Sécurité, Mahfoud MD, ainsi qu'un certain nombre d'autres ministres ont lancé le système logistique de Batam, une plateforme logistique intégrée à Batam dans les îles Riau jeudi le 18 mars. À cette occasion, Luhut a déclaré que jusqu'à présent, la logistique indonésienne était relativement inefficace par rapport aux pays voisins. C'est pourquoi la plateforme d'écosystème logistique de Batam, BLE, a été conçue dans le cadre de l'écosystème logistique national, NLE. À la même occasion, la ministre des Finances, Sri Mulyani, a expliqué qu'outre Batam, le gouvernement mettra également en œuvre NLE dans toute l'Indonésie, appliquée dans tous les ports. Pendant ce temps, la ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le programme devrait être en mesure d'augmenter la compétitivité de Batam, espérant que cela fait partie de la reprise économique. Sri Mulyani a expliqué que le gouvernement avait choisi Batam pour mettre en place un système logistique, car la ville est une véranda d'État face aux pays voisins. Avec l'écosystème logistique de Batam, BLE, on espère, lorsque l'économie se redressera, les services pour les activités d'exportation et importation à Batam seront meilleurs. Pendant ce temps, le ministre du Commerce, Muhammad Lutfi, a déclaré que le ministère du Commerce soutenait l'arrangement du système logistique de Batam par le biais de l'écosystème logistique de Batam, BLE, qui est capable de créer de l'efficacité dans les activités commerciales à travers l'intégration de licences et des services logistiques. Selon Muhammad Lutfi, BLE peut réduire les coûts et le temps logistique à Batam grâce à des services intégrés. BLE se concentre sur l'intégration de systèmes pour rassembler les services logistiques de Batam, tels que les permis d'affaires et les permis de consommation, les services de navire à navire et les unités de stockage flottante, ainsi que la mise en œuvre d'un système d'autogate. En outre, l'écosystème logistique de Batam, BLE, comprend également des services logistiques tels que la commande de camionnage, de navires, d'entrepôts et de paiement. Muhammad Lutfi a déclaré que l'écosystème logistique de Batam, BLE, fait partie des efforts visant à réglementer la gestion de la logistique nationale sous l'égide de l'écosystème logistique national, ainsi que des efforts visant à encourager la reprise économique nationale après la pandémie de COVID-19. Il a souligné que l'efficacité logistique était nécessaire pour que l'Indonésie puisse rivaliser avec d'autres pays. Cela sera également utile pour garantir la certitude de faire des affaires en Indonésie et augmenter les revenus de l'État. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Lepas
selamanya takkan ku lepas
di kala berpisah.
Moga tak pernah terjadi.
Senyum air mata.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, la cuisine, les arts et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons la maison traditionnelle de Sumba, Uma Bokolo. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, Uma Bokolo ou Uma Batangu est une maison traditionnelle à Sumba dans la province de Nusa Tenggara Est. Il y a des gens qui ont dit qu'Uma Bokolo signifie « grande maison », tandis qu'Uma Batangu est une maison avec une tour. Les deux significations sont vraies. Uma Bokolo et Uma Batangu se réfèrent à la maison sur pilotis typique de Sumba avec toit en tour qui est haut. Uma Bokolo est construite dans le village traditionnel de Wainyapu, sous le district de Kodi, à l'ouest de Sumba. La forme de la maison traditionnelle extérieure du village traditionnel n'a en général pas de tour. Le sommet du toit d'Uma Bokolo est très haut, environ 20 mètres de haut. À cause de cela, on l'appelle maison tour. Chers auditeurs, Uma Bokulu a la forme d'une maison sur pilotis construite à partir de matériaux naturels. Son plancher et sa structure sont en bambou. Son toit est en roseau ou en paille de riz. La fosse de bâtiment est sur le quatre pôles principal en rondin géant nommé Kambani Huludumu. Autour des poteaux principaux, il y a 36 poteaux de soutien appelés Kambaniru. Uma Bokulu a été construite conjointement par le biais de cérémonies traditionnelles. Pour construire une grande maison, les clous ne sont pas utilisés, mais avec des cordes en rotan. Lors de l'installation de toits de chaume, ils ne doivent pas prendre de pause pour manger jusqu'à ce que la fermeture du toit soit terminée. La particularité d'Uma Bokulu est la forme de son toit qui est en cône appelé Toko Uma. À l'intérieur, il y a une pièce qui sert de grange pour stocker les graines, les denrées alimentaires et les objets de famille. Chers auditeurs, à l'étage supérieur d'Uma Bokulu se trouve un espace résidentiel appelé Beuma. Au milieu de la pièce, parmi les quatre pôles principaux, sert de cuisine. Devant la cuisine se trouve la table à manger et devant la table, il y a une terrasse où les hommes discutent. Sur la terrasse, on installe généralement des cornes de buffle ou de défense de sanglier. C'est une preuve que les propriétaires ont coupé du bétail, mais c'est aussi un signe que le propriétaire est une personne importante dans la communauté. Séjourner à Uma Bokulu est très confortable. L'air frais qui entre et sort librement à travers les fissures du sol et du mur rend Uma Bokulu plus confortable. Le sol n'a pas non plus besoin d'être nettoyé et balayé, car entre les bouches de bambou disposées d'être le sol, il y a des fissures, si bien que la poussière et les ordures tombent directement sous la maison. Sous la maison d'Uma Bokulu s'appelle Kabunga. Cette sous-maison est généralement utilisée pour stocker le bois de chauffage et également la case du bétail. Jusqu'à présent, la maison traditionnelle de Sumba a conservé son originalité. Cette maison se trouve dans des villages traditionnels tels que Wainyapu, Ratenggaro, Tahul, Watabar, Lamboya, Wanukaka. Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Bahagia bersamamu, ku jalani hariku, taraku. Ucap kata darimu melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu. Kau membuatku selalu tersenyum. Ku ingin selalu tahu kabarmu. Aku hanya bisa mencintaimu. Bahagia bersama.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Lingkungan Rumah. Je répète, Lingkungan Rumah, en français quartier de la maison. Je vais vous donner une conversation dont le titre est Ungkapan Keharusan. Je répète, Ungkapan Keharusan signifie expression de nécessité. Bonne écoute. C'est une conversation entre Kevin et Boris, son nouveau voisin. Kevin donne l'information qu'il doit payer les frais de nettoyage.
Kevin, kepada siapa kita membayar iuran kebersihan?
Kepada Pak RT.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Ungkapan keharusan, je répète, ungkapan keharusan signifie expression de nécessité. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Harus, harus signifie devoir. Harus membayar. Harus membayar signifie il doit payer. Kebersihan. Kebersihan signifie propreté. Pembersihan. Pembersihan signifie nettoyage. Iuran kebersihan. Iuran kebersihan signifie frais de nettoyage. Kita harus membayar iuran kebersihan. Kita harus membayar iuran kebersihan signifie nous devons payer le frais de nettoyage. Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. Signifie, nous devons garder la propreté. Dans la conversation, vous écoutez la déclaration Kita harus membayar iuran kebersihan. Kita harus membayar iuran kebersihan. Signifie, nous devons payer les frais de nettoyage. Dans cette déclaration, il y a le mot harus. Harus signifie devoir. Le mot harus. Harus signifie devoir est utilisé pour demander au locuteur ou à l'interlocuteur de faire quelque chose. Par exemple, kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan. Kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan signifie nous devons payer des frais de nettoyage tous les mois. Un autre exemple, le mot harus. Harus signifie devoir suivi d'un verbe qui complète l'information. Par exemple, kita harus membayar iuran kebersihan. Kita harus membayar iuran kebersihan. Signifie, nous devons payer des frais de nettoyage. Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. Signifie, nous devons garder la propreté. Awang determine prang dralang Indonesia yang aujourd'hui pour mieux comprendre écoutons encore une fois la conversation.
Kevin, kepada siapa kita membayar iuran kebersihan?
Kepada Pak RT.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui, dont le sujet est lingkungan rumah. Lingkungan rumah, en français quartier de la maison. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Lampu dipadamkan, ku tak terlelap, ku terjaga. Kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan, 24 jam sejak pagi hingga malam. Rasa penasaran, dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda. Kau sudi tinggal di hati ini. Hari terangi setiap sudut di kamar ini. Ku masih di sini, terpaku pada ekspektasi. 24 jam sejak pagi hingga malam.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Et cette fois, vous allez écouter une chanson koroncong intitulée Tembang Kiasan, chantée par Tuti Mariati. Chers auditeurs, la chanson Tembang Kiasan, ou chanson figurative, créée par Budiman B.J. Cette chanson raconte l'histoire d'un héros tombé. Cependant, son nom est toujours rappelé à travers les âges. Une chanson avec des paroles relativement courtes, mais qui ont une signification très profonde. Budiman B.J. a écrit cette chanson avec de belles paroles, comme la poésie. La musique d'accompagnement était très mélodieuse. Bon, cher auditeur, voici Tuti Mariati va chanter une chanson koroncong intitulée Tembang Kiasan. Bonne écoute.
<t'->
segera menjelang pagi.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.